Au gré du temps. Passent les jours, passent les semaines, les souvenirs nous reviennent. Passent les saisons, restent nos chansons. Bonjour à tous, ici Armand Dubois. Notre invité aurait pu faire carrière dans une grande firme transigeant en plusieurs langues ou encore aux Nations Unies comme traducteur. 10 ans de cette carrière l'amèneront à bifurquer et à se diriger vers ce qui est pour lui une passion, la musique, et plus précisément la musicologie, c'est-à-dire l'histoire de la musique. Ses connaissances et son goût de la musique, il sait nous les partager. Il réussit avec l'opéra à nous faire vivre l'expérience de cet art musical. Il est devenu en quelque sorte la voix de l'opéra, un ténor de sa passion. Nous recevons aujourd'hui M. Pierre Vachon. Bonjour à vous.
Oui, bonjour.
Il est vrai que l'opéra occupe une grande place dans votre vie.
Oui, c'est vrai, c'est drôle parce que quand, au départ, je détestais l'opéra, mais finalement, il y a eu une espèce de déclic qui s'est fait parce que j'étais appelé à être figurant lorsque j'étais étudiant au conservatoire et on manquait de figurants, de jeunes gens pour faire partie de Carmen avec Huguette Tourangeau. Et donc, je suis allé et tout d'un coup, ça a été une espèce de révélation, de choc d'abord de rencontrer Huguette Tourangeau. Je la connaissais de réputation et tout d'un coup, de la voir aller de façon si simple et si conviviale avec les gens, de la voir s'impliquer, s'engager auprès des gens, tout le monde. Elle faisait partie de l'équipe, dans le fond. Et ensuite, de participer aux répétitions. Mais là, tout d'un coup, j'ai eu un coup de foudre et ça a été quelque chose de très... vraiment un choc amoureux, comme on l'exprime, dans le fond, ou qu'on l'éprouve. Ou tout d'un coup, c'est comme une révélation.
Une révélation, un choc amoureux, dites-vous, un accident de parcours, mais en même temps... Vous étiez déjà sur ce chemin de la connaissance musicale, puisque vous faisiez et vous aviez fait des études dans ce domaine.
Oui, tout à fait. En fait, moi, c'est le violon. J'ai fait mes études en violon au conservatoire. Et ça m'a toujours fasciné, le violon, la vie du musicien, la vie de l'artiste. Parce que pour moi, l'art, c'était... On est édifié par l'art, on est transporté, on transcende la réalité.
Est-ce que vous envisagiez faire une carrière d'interprète?
Ah oui, tout à fait. Oui. Pendant un certain temps, je l'ai envisagé, mais pour me rendre compte que je n'avais pas assez de talent et que c'est très dur.
Vous en aviez sûrement beaucoup, mais c'est difficile comme métier quand même.
Mais disons que ça m'a beaucoup contenté d'étudier le violon. Moi, je n'ai pas trouvé ça pénible de faire des gammes le soir. Bon, j'étais au secondaire et les cours étaient le soir à ce moment-là. Donc, c'était une discipline de vie et d'études parce que le jour, c'est les études au secondaire. Le soir, c'est les études de violon. Et après ça, revenir à la maison, c'était à Québec. C'était très loin d'où je restais. Donc, c'était de très, très longues journées, mais jamais je me suis plaint de ça. Je disais, au contraire, c'est quelque chose qui est très, très édifiant puis très stimulant. Et donc, oui, j'ai envisagé la carrière. Je me disais, si j'ai du talent transcendant, j'aimerais donc ça devenir violoniste. Mais pour me rendre compte que, bon, ça serait difficile, mais aussi j'ai un handicap au doigt. Donc, mon prof me dit, écoute, vise pas la carrière parce que tu pourras jamais te rendre plus loin que tel niveau ou quoi que ce soit. Et c'est comme ça que finalement, j'ai dit, bon, il faut vraiment penser à autre chose, mais éventuellement, bon, j'ai peut-être un petit peu délaisser la musique, mais éventuellement, j'y reviendrai à la musique. Et puis, c'est comme ça que, dans le fond, que ça s'est fait presque naturellement.
Est-ce que c'est ce qui vous a amené à faire des études, par exemple, au niveau de la traduction? Parce que dans la présentation, je disais que vous auriez pu faire carrière dans un organisme ou une organisation d'envergure.
Oui, oui, tout à fait.
Parce que vous parlez quelques langues,
dis-donc. Ben oui, quelques langues, effectivement. C'est vrai que les langues, ça me fascine énormément. Ouais. C'est cette espèce de plongée dans une culture. Et la traduction, j'avais des sœurs qui ont étudié la traduction, puis je me suis dit, tiens, c'est un beau métier, la traduction. Et c'est vrai que j'ai eu des velléités de devenir interprète. Vous mentionnez les Nations Unies. Oui, moi, on rêve tous un jour de travailler aux Nations Unies. Alors, je me suis dirigé en traduction et ça rejoignait vraiment les passions que j'avais, c'est-à-dire les langues, donc l'ouverture vers d'autres cultures, d'autres peuples, de voyager aussi. Pour moi, c'était essentiel de pouvoir faire le tour du monde et faire autre chose. Alors, je suis allé là-dedans et j'ai adoré. Ça aussi, c'était un choc amoureux. La traduction, d'abord la complicité qu'on avait entre étudiants. Mm-hmm. J'étais à l'Université Laval à ce moment-là. Et ça a été très, très rapide, les études. Ça a été très, très, très bien aussi comme climat de travail, climat d'études. Et après, j'ai tout de suite, je suis allé à Toronto pendant plusieurs années travailler. Et là, j'ai adoré ce métier de la traduction, l'exigence de la traduction, la recherche, le souci aussi de retourner à la source. La traduction, on s'efface complètement. Il y a une neutralité.
Et de comprendre les mécanismes de la pensée étrangère.
Ça, j'ai trouvé ça fascinant, justement, de dire, bon, on parle anglais, moi, je parle allemand aussi. Et je me suis dit, mais c'est fascinant de voir comment se fait-il tout d'un coup que la structure, la syntaxe de la phrase est complètement autre que la nôtre.
Etc. En allemand, par exemple, c'est complètement la fin qu'on découvre un peu.
Exactement. Et puis c'est un casse-tête pour les traducteurs parce que les verbes vont à la fin. Alors, quand il y a des compléments et des subordonnés et tout, il faut attendre des fois 15 minutes avant d'avoir le verbe. Alors, j'ai trouvé ça fascinant et tout de suite, je me suis lancé dans la traduction et j'ai adoré ce métier et les gens aussi qui font ce métier. C'est des gens de rigueur, des gens de curiosité, des gens de culture. Et ça, je me suis dit, tiens, c'est vraiment fascinant et je suis privilégié, dans le fond, d'étudier ça.
Est-ce que vous auriez pu exercer le métier au plan de la traduction simultanée, par exemple?
Oui, je l'ai fait un petit peu à Toronto. Oui. J'étais dans des situations parce que je me suis rapidement engagé dans le domaine des arts, le domaine des musées à Toronto. Et parce que je parlais français et anglais, j'étais parfaitement bilingue. Et donc, ça me permettait de faire la traduction simultanée, traduction verbale. Enfin. Et je l'ai fait pour certains colloques. Mais c'est tellement exigeant que je me suis dit, je ne suis pas sûr d'avoir l'énergie ou d'avoir les nerfs pour passer à travers. Alors, ce qui fait que la traduction écrite était parfaite, mais la traduction écrite littéraire aussi, qui m'a beaucoup
intéressé. Mais tout ça vous préparait fort bien à faire le métier que vous exercez maintenant. Quand il est question, par exemple, d'analyser les opéras, on sait que la plupart des grands opéras sont ou bien en allemand ou en italien. Il y a quand même le jeu de la langue qui prend tout son essor à travers les voix magnifiques de ceux qui interprètent ces œuvres.
Ben, tout à fait, parce que la langue est un aspect central. Oui. À l'opéra, c'est du chant, donc c'est de la voix chantée, de la voix parlée, donc des textes. Et c'est vrai qu'il y a tout un jeu aussi de traduction, un jeu de compréhension de la langue, de la beauté de la musique de la langue, de la poésie de la langue. Et ça, quand on est traducteur, on se fascine pour ça. Par exemple, l'allemand, pour moi, l'allemand, c'est une langue dont la sonorité traduit le sens du mot. Alors, quand quelque chose est laid et dur, le mot sonne dur et sonne laid, contrairement à d'autres langues. Et ça, je me suis dit, tiens, c'est intriguant. Absolument. Comme phénomène sonore ou comme phénomène linguistique. Et alors donc, oui, c'est vrai qu'avec l'opéra, je suis dans du texte constamment. Et donc, oui, ça rejoint, dans le fond, des affinités, des passions aussi. Donc, la langue, la compréhension de la culture d'un pays, pas juste la culture musicale ou la culture au sens large, mais aussi la culture en termes de connaissance des peuples et donc de leur mentalité, de ce qu'ils sont et d'où ils viennent.
Alors, nous pourrons reparler d'opéra, mais revenons à cet instrument que vous avez adoré il y a déjà de nombreuses années en exerçant même la pratique de cet instrument, le violon. Un concerto un extrait du premier mouvement d'un concerto que vous avez choisi particulièrement pour une raison évidente.
Oui, il y a toujours des coups de foudre qu'on a à un moment donné. Quand on apprend un instrument, on a des gens qui sont nos modèles et qui on est pris d'émulation. On dit on veut être aussi grand que. Et quand j'étais jeune, mon prof était quelqu'un qui était fasciné par le violon russe, par le vibrato, par la sonorité des gens des Russes. Et un de ses musiciens fétiches était David Oistrakh. Alors, je me suis mis à écouter David Oistrakh et je me suis dit, mais c'est parfait. Et ça correspondait à quelqu'un où, vous savez, le violon, c'est un instrument. Donc, c'est un corps étranger qu'on doit intégrer à son corps. Ce qui est différent d'un chanteur dont l'instrument fait partie de son corps. Et donc, le rapport à l'instrument est autre. Pour un violoniste ou pour un instrumentiste, donc, de faire sien et d'intégrer, d'avoir une relation organique avec son instrument est quelque chose qui prend du temps, à un moment donné. Et David Oistrakh, pour moi, incarnait cette fusion parfaite entre l'instrument, le musicien, et en plus sa technique, son jeu, etc. Et je vous ai apporté un extrait de Khachaturian parce que c'est une œuvre qui est difficile à jouer, c'est une œuvre qui est très rythmée, mais une espèce de fougue d'énergie, de volonté, de rigueur violonistique là-dedans. C'est-à-dire quand on regarde, qu'on écoute du violon, d'abord le son, c'est beau longtemps, c'est du vrai son. En plus, la technique, on a l'impression que ce type-là joue du violon comme nous, on ferait, je sais pas, on battrait des œufs.
Et c'est très syncopé comme mouvement, d'ailleurs.
Oui, effectivement. Donc, il y a une exigence musicale, rythmique, et en même temps, il faut que tout ça soit quand même, que le son soit beau. Alors, oui, c'est un enregistrement historique, mais qui capture tellement bien l'esprit de ce grand Oistrakh qui a été un des plus grands violonistes du 20e siècle, qui a toujours été un de mes violonistes fétiches. Il reste encore... Quelques 30 ans après, j'ai là encore la même passion pour David Oistrakh. Je réécoute ses disques inlassablement et ça reste toujours une merveille.
Alors, ouvrons nos oreilles et notre cœur. Bel extrait, effectivement, de ce concerto pour violon en ré mineur de Khatchaturian, interprété par David Oistrakh. Avec nous aujourd'hui, Pierre Vachon, qui est directeur des communications à l'Opéra de Montréal et qui a fait quand même une carrière comme traducteur, qui a joué du violon. Est-ce que vous jouez encore de cet instrument?
De temps en temps, à Noël, pour jouer du rigodon pour la famille.
Ah, ça, c'est intéressant.
Mais
vous avez,
dur.
Mais vous avez gardé quand même... un amour pour cet instrument.
Oui, tout à fait. Ah oui, ça, c'est une, ça a été, comme je le dis au départ, c'est un choc amoureux. Je pense que ça reste. Et encore aujourd'hui, je suis la carrière des jeunes violonistes qui émergent, des gens comme Hilary Hahn, Anne-Sophie Moutère, par exemple, des gens. Et je me fascine encore. Et pour un de mes plaisirs, les fins de semaine ou quand je veux décrocher, c'est de m'asseoir chez moi et de me mettre un concerto pour violon et de ne faire que ça pendant 40 minutes. Et là, je ferme les lumières et j'écoute le violoniste, le son du violon, j'écoute la musique. Et ça, ça reste un de mes plaisirs.
On a entendu Oistrakh et vous parlez de Mme Moutère. Est-ce que la technique, au fil des ans, a beaucoup changé?
Oui, oui, tout à fait. On parle beaucoup de plasticité, c'est-à-dire que avant, dans le temps de Oistrakh, on était beaucoup moins axé sur la beauté sonore, donc l'espèce de d'hédonisme musical, c'est-à-dire le son pour le son. On voulait une musique, on voulait quelqu'un. Oui, on voulait le son, mais c'était pas une finalité en soi. Alors qu'aujourd'hui, on met beaucoup l'accent sur le peaufinement, la valeur esthétique du son, au détriment parfois de l'intention, de ce qu'on a à dire, de l'interprétation. Évidemment, il y a le phénomène de la mondialisation aussi. Donc, en termes de... On a l'impression que tout le monde joue pareil. C'est difficile d'entendre une personnalité à l'instrument. C'est très, très rare. Et quand il y en a, ben oui, on s'y accroche.
Et donc, c'est un milieu excessivement compétitif pour les interprètes.
Tout à fait. Et en plus, avec les écoles de musique qui ont émergé depuis une cinquantaine d'années. Je pense juste ici, par exemple, il y a quelques 700 étudiants en musique à l'Université de Montréal qui apprennent un instrument. Alors, il y a une espèce de prolifération de jeunes, d'instrumentistes, de musiciens. Bon, et oui, il y a des orchestres, il y a de plus en plus d'orchestres, de plus en plus d'ensembles. Alors, il y en a énormément et c'est pas évident, je dirais, de se tailler une place et aussi de faire sa marque là-dedans.
Et on dirait, peut-être me tromperais-je, mais que la compétition est encore peut-être plus violente au plan de l'interprétation du violon que du piano. Vous parliez de plasticité, vous disiez que tout semble produire à peu près le même son aujourd'hui. Au plan pianistique, il semble que les différences apparaissent encore.
Mm-hmm. Oui, effectivement. Il faut dire que l'instrument aussi influence un petit peu, mais c'est vrai que les techniques, oui, on peut détecter. Ce qui existe quand même un petit peu au violon aussi, mais c'est vrai que tout d'un coup, il y a eu un revirement. Il reste encore les derniers bastions de cette belle école violonistique où tout d'un coup, il y a une âme en plus d'une sonorité et tout. Des gens comme Mutter ou Hilary Hahn, par exemple, qui sont de jeunes... Enfin, Mutter un peu moins, mais Hilary Hahn est une jeune américaine et c'est prodigieux à tout point de vue. Non seulement y a-t-il la beauté sonore, mais en plus, y a toute la musicalité, toute la virtuosité et la maîtrise technique qui est tellement transparente. Donc, on a l'impression que c'est banal, presque. Mais c'est d'une beauté absolument splendide. Ça, c'est une de mes... Je dirais qu'après Oistrakh, maintenant, c'est Hilary Hahn qui a pris la relève. Et puis... Alors, on arrive encore à détecter, dans le fond, des écoles, des styles, heureusement, et des personnalités musicales, où des gens, tout d'un coup, ce ne sont pas juste des instrumentistes, ce sont des musiciens. Et donc là, oui, la musique fait sens parce que la musique est un langage. Ce n'est pas juste un accompagnement, ce n'est pas juste une détente, une bride d'ambiance. C'est vraiment un langage au même sens que le français est un langage. Et quand on étudie la musique, on apprend à décortiquer, à déstructurer, à comprendre ce langage et cette syntaxe.
Vous dites que la musique fait sens, qu'elle est un langage. Quand on passe en musique un peu plus légère, il y a parfois aussi du sens. Je pense à la prochaine interprète dont vous avez choisi une chanson qui, elle, a écrit avec son cœur, avec son âme. Nous en gardons encore aujourd'hui un souvenir impérissable. Heureusement qu'il y a ces enregistrements qui nous permettent de la réécouter. Je parle bien sûr de Barbara.
Oui, ça a été aussi un autre choc amoureux. C'est-à-dire que dans le domaine complètement autre de la musique populaire, dans le fond, mais j'aime les chansons à texte. Le sens des mots, raconter des histoires, raconter des choses, mais de façon poétique, de façon intelligente. Barbara, Brel et d'autres, mais surtout Barbara, ça, tout d'un coup, quand j'ai découvert ça... Et c'est curieux parce que j'étais à ce moment-là, lorsqu'elle est morte, je commençais ma première saison à Radio-Canada comme animateur de nuit. Et tout d'un coup, on apprend le décès de Barbara, que je connaissais à peine à ce moment-là, et c'est un collègue qui me dit « Ah, moi, c'est ma chanteuse ». Alors évidemment, pour faire une place, on a fait une place à Barbara, et là, ça a été la découverte extraordinaire. J'ai étudié la musique et donc la musicologie m'amène à étudier la structure musicale, comment une œuvre est faite, comment elle est articulée, pourquoi elle est belle, comment elle est composée. Et quand j'écoute Barbara, j'ai l'impression que c'est vraiment une œuvre de Mozart. C'est très curieux parce que ça fait sens, c'est structuré, ça va quelque part.
Et la prochaine chanson a pour titre
Nantes.
Il a plu sur Nantes, donne-moi. Le ciel de Nantes rend mon cœur chagrin. Un matin comme celui-là, il y a juste un an déjà, la ville avait ce teint blafard lorsque je sortis de la gare. Nantes m'était alors inconnue, je n'y étais jamais venue. Il avait fallu ce message pour que je fasse le voyage. Madame, soyez au rendez-vous, 25 rue de la Grange au Loup. Faites vite, il y a peu d'espoir, il a demandé à vous voir. À l'heure de sa dernière heure, après bien des années d'errance, il me revenait en plein cœur, son cri déchirait le silence. Depuis qu'il s'en était allé, longtemps je l'avais espéré, ce vagabond se disparut. Voilà qu'il m'était revenu, 25 rue de la Grange au Loup. Je m'en souviens du rendez-vous et j'ai gravé dans ma mémoire cette chambre au fond d'un couloir. Assis près d'une cheminée, j'ai vu quatre hommes se lever. La lumière était froide et blanche, ils portaient l'habit du dimanche. Je n'ai pas posé de questions à ces étranges compagnons. J'ai rien dit, mais à leur regard, j'ai compris qu'il était trop tard. Pourtant, j'étais au rendez-vous 25 rue de la Grange aux Loups. Mais il ne m'a jamais revu. Il avait déjà disparu. Voilà, tu la connais l'histoire. Il était revenu un soir et ce fut son dernier voyage. Et ce fut son dernier rivage. Il voulait avant de mourir se réchauffer à mon sourire. Mais il mourut à la nuit même, sans un adieu, sans un je t'aime. Au chemin qui longe la mer, couché dans le jardin de pierre, je veux que tranquille il repose. Je l'ai couché dessous les roses, mon père.
Barbara, Nantes, avec nous Pierre Vachon, directeur des communications à l'Opéra de Montréal. Le temps file déjà très rapidement, c'est tellement fascinant ce que vous avez à nous raconter que je vous invite tout de suite à nous présenter la prochaine pièce musicale qui est d'un autre genre, mais qui est probablement plus associée à ce que vous faites presque quotidiennement, c'est-à-dire d'être dans ce domaine qui est merveilleux de l'art lyrique.
Mmh, tout à fait, c'est un art total. Et c'est vrai qu'il y a énormément de facettes. Là, c'est un extrait de Roberto de Vereux. C'est une rareté qu'on va présenter à l'Opéra de Montréal. Roberto de Vereux, peut-être, c'est un nom qui évoque peu de choses, mais c'est l'un des favoris d'Élisabeth Ier, donc la grande reine d'Angleterre, que l'on nommait la reine vierge, mais qui avait quand même des histoires amoureuses. Alors, donc c'est son histoire, espèce d'histoire de trahison, de trahison amoureuse, mais trahison politique aussi. On est très, très fiers de pouvoir présenter cette œuvre-là qui est rarement jouée avec des grands noms. Et là, c'est Edita Gruberova. Ça aussi, vous avez bien choisi parce que c'est une de mes chanteuses fétiches depuis très longtemps. Edita Gruberova, qui est la soprano colorature, la belle cantiste, comme on dit, donc de l'heure, et puis qui chante un extrait de cette opéra de Donizetti qui est extraordinaire.
Et peut-être une note additionnelle sur cette soprano, elle a fait ses débuts en 1968 dans le rôle de Rosina du Barbier de Séville de Rossini, et il faut dire qu'elle est originaire de Tchécoslovaquie, qui était à l'époque un pays communiste. D'ailleurs, elle s'est exilée à un moment donné, mais elle y est revenue en 79 lors d'une tournée avec l'Opéra de Vienne. Et à partir de ce moment, on peut dire que sa carrière a vraiment pris son envol. C'est une voix bien particulière.
Tout à fait. Elle a été propulsée parce qu'aussi, c'est une des grandes interprètes de Richard Strauss. Et quand Carl Böhm, qui a connu le compositeur Richard Strauss, a entendu Edita Gruberova, il a dit « Si Strauss l'avait entendu, il aurait trouvé sa zerbinette. » Et elle est devenue effectivement l'un des grands, grands noms de soprano colorature. On la connaît moins ici, sinon que par le disque, parce que c'est une femme qui n'aime pas voyager. Et elle s'est établie à Munich. Elle chante beaucoup, beaucoup à l'Opéra de Munich. Et c'est aujourd'hui la grande soprano. C'est celle qui a remplacé Sutherland, Caballé, Callas, etc. Et c'est une voix particulière quand même, une technique irréprochable.
Et cet air va nous amener à la première pause.
Thank you.
triste et doux.